Chers camarades, chers amis, je voulais tout d'abord exprimer cette satisfaction collective de se retrouver une nouvelle fois nombreux pour cette fête régionale de lutte ouvrière. C'est la démonstration que si notre courant communiste révolutionnaire et internationaliste est certes, dans cette période, bien minoritaire, il est cependant bien vivant. L'actualité récente est marquée par la grève qui se poursuit dans les raffineries. Une grève qui, au-delà de son impact pour se ravitailler en essence, montre bien des enseignements. Tout d'abord, on ne peut être que choqué, mais pas surpris, par les calomnies des médias et des dirigeants politiques qui présentent les travailleurs des raffineries comme des privilégiés gagnant 5000 euros par mois. Ils sont accusés de prendre en otage le pays, d'empêcher les gens d'aller travailler, d'aller à l'école ou de se soigner. Tout cela parce que les travailleurs défendent leur pouvoir d'achat. Les mêmes commentateurs ne sont absolument pas choqués lorsque les profits de Total Energy s'envolent. Total Energy est l'entreprise la plus profitable de France, avec près de 19 milliards réalisés rien que sur le premier semestre. Les mêmes trouvent tout à fait légitime que les actionnaires touchent un acompte de 2,6 milliards ou que le PDG s'octroie de lui-même une augmentation de 50% pour gagner 500 000 euros par mois. Derrière toutes ces calomnies et diatribes contre les grévistes et au-delà du mépris de classe, il y a aussi une réelle inquiétude du côté du gouvernement comme du patronat. La crainte bien réelle que ce mouvement fasse tache d'huile. Que la grève s'étende, tant ils savent que la très grande majorité de la population vit de plus en plus mal, avec des fins de mois de plus en plus difficiles. C'est pour cela qu'ils essaient de diviser les travailleurs, en jouant sur les difficultés pour avoir de l'essence, alors que c'est la direction de Total qui a donné une fin de non-recevoir pendant près de 3 semaines aux travailleurs en lutte. C'est pour cela que le gouvernement a pris la décision de réquisitionner les travailleurs pour que l'essence sorte afin de faire enfin échec à cette grève. Alors, quelle que soit l'issue de la grève dans les raffineries, elle aura posé le problème des salaires pour les travailleurs. Le 18 octobre, à l'appel de plusieurs syndicats, c'est cette question des salaires qui sera de nouveau mise en avant. S'il est bien difficile de prévoir le succès de cette journée, des travailleurs seront en grève pour manifester leur colère. Et on doit en être pour poser le problème de la hausse générale des salaires. La grève des raffineries est aussi porteuse d'un autre enseignement, celui que le patronat est uni et bien décidé à ne rien céder. Face à eux, pour imposer cette hausse des salaires, nous devrons être tout aussi déterminés et unis. Nous, communistes révolutionnaires, déclencher une grève est hors de notre portée. Par contre, nous pouvons préparer les travailleurs à ce combat, si nous voulons l'emporter. Il faut pour cela que l'on discute à l'avance de nos revendications. Une lutte pour les salaires ne pourra être que déterminée et massive. Et l'on ne pourra pas se contenter de quelques pourcents. Mais on devra se baser sur ce dont nous avons besoin pour vivre correctement. Dans la dernière campagne, nous avons avancé la nécessité de hausse de plusieurs centaines d'euros et qu'aucun salaire ne soit inférieur à 2000 euros net. Mais cela pourrait être encore bien plus demain. Dans nos revendications, il faut aussi avancer l'indexation des salaires sur les prix. Non en se référant à l'indice INSEE de l'inflation qui est l'instrument du gouvernement. Non, il faut imposer une indexation des salaires sur les prix réellement constatée par les travailleurs eux-mêmes dans la vie de tous les jours. Ce sont de telles revendications qui seraient nécessaires de mettre en avant si un mouvement de grève se développait. Mais pour qu'un tel mouvement puisse exister et se développer, nous ne pouvons pas faire confiance aux directions syndicales. Il ne s'agit pas seulement de l'attitude d'un Laurent Berger pour la CFDT qui a condamné la grève des raffineries, mais de toutes les directions syndicales. Il suffit de voir qu'à l'annonce d'une prochaine réforme des retraites, tous se sont montrés sensibles à l'invitation qui leur a été faite de participer à une concertation. Alors que chacun sait de quoi il est question, reculer l'âge de la retraite, et surtout condamner nombre de travailleuses et de travailleurs à des retraites de misère, car usés par le travail, nombreux sont ceux qui n'atteindront pas l'âge requis en activité. Cela n'empêche pas tout ce petit monde de bavasser et de préparer en fait de nouveaux reculs. Les directions syndicales se posent en représentant des travailleurs auprès de l'État et du patronat, et comme ils le revendiquent, d'être des partenaires sociaux. C'est devenu leur raison d'être depuis bien longtemps, depuis que les centrales syndicales se sont complètement intégrées à la société capitaliste. Il ne peut être question de partenaires, alors que la bourgeoisie et les gouvernements à son service nous mènent une guerre de classe de plus en plus féroce. Alors oui, il ne faut pas laisser les bureaucraties syndicales diriger les prochains mouvements. Il faut tout au contraire défendre la démocratie ouvrière. La véritable démocratie ouvrière est celle qui consiste à ce que ce soit la base qui décide, notamment dans les grèves. Et pour cela, il ne faut pas que ce soit quelques responsables syndicaux qui la dirigent et qui monopolisent la parole dans des assemblées générales où les travailleurs sont mis devant le fait accompli de leurs choix et de leurs décisions. Nous militons pour que demain, ce soit les travailleurs qui dirigent la société. Alors il est naturel pour nous de faire en sorte que les travailleurs dirigent leurs propres organisations et demain dirigent leurs propres grèves, par en bas, à travers des comités de grève élus et révocables, et après-demain, dans des conseils ouvriers dont les bureaucrates syndicaux se feront jeter dehors s'ils ne reconnaissent pas les décisions des travailleurs. Nous restons convaincus, comme les fondateurs de la Première Internationale des Travailleurs, que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Nous restons convaincus que les travailleurs qui vont tout tourner dans la société doivent la diriger. L'inflation qui nous appauvrit chaque jour tous un peu plus s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. Mais elle avait commencé bien avant, à la suite de la crise sanitaire. Elle a pour origine la spéculation des banques, des grandes entreprises, des capitalistes, qui, bien conscients que l'économie s'enfonçait dans la crise, n'avaient aucune raison de faire des investissements productifs. Il leur apparaissait bien plus profitable de jouer des milliards à la hausse sur les marchés, sur les prix, des marchés de l'énergie, des matières premières, des céréales, quitte à accroître les crises alimentaires sur la planète qui touchent un habitant sur sept. Aujourd'hui, dans ce monde, une personne meurt de faim toutes les 4 secondes, alors que nous aurions les moyens de nourrir 11 à 12 milliards d'habitants et que nous sommes 7 milliards et demi. Oui, le capitalisme arrivé à son stade impérialiste est devenu non seulement un frein au développement de l'humanité, mais il conduit aussi une nouvelle fois à la guerre. Comme le disait Jean Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre de plus. Elle oppose directement deux grandes puissances, la Russie à la première puissance impérialiste mondiale, les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas formellement déclaré la guerre à la Russie. Mais qui fournit les armes à l'Ukraine? Qui met à disposition des satellites, des drones, des conseillers militaires à l'armée ukrainienne? Il y a un partage des rôles entre les États-Unis et Zelensky. Les États-Unis apportent l'argent et les armes, les Ukrainiens fournissent la chair à canon. Le dernier discours va-t-en-guerre de Poutine, sa menace à peine voilée de recourir à l'arme nucléaire, la mobilisation des réservistes et les référendums d'annexion ont fait monter la tension d'un cran. Mais si du côté de Poutine, l'escalade est verbale, du côté des États-Unis, l'escalade est matérielle. La guerre en Ukraine n'est pas et n'a jamais été une guerre nationale dans laquelle un petit pays résiste à l'invasion de son puissant voisin. L'Ukraine est depuis des années le terrain d'affrontement entre deux brigands, la Russie et les États-Unis, pour savoir lequel fera de cette région du monde sa chasse gardée. Et l'un comme l'autre est prêt à en faire un théâtre sanglant. Alors oui, cette guerre peut s'intensifier, se rapprocher et se généraliser. Ici en France, Macron et son gouvernement, avec l'aide des médias, préparent déjà les esprits à une telle éventualité. Et si la France n'est pas non plus officiellement en guerre aujourd'hui, elle fournit, elle aussi, du matériel militaire et des conseillers militaires. Il faut imaginer que la pression guerrière peut s'intensifier, avec tout ce que cela signifie de peur et de militarisation de la société. Et il faudra continuer à résister à leur propagande. Nous serons peut-être de moins en moins nombreux, mais il faudra continuer d'affirmer que, oui, Poutine est un dictateur, mais l'impérialisme est tout un système qui perdure au-delà de la personnalité des uns ou des autres et qui fait sombrer le monde dans la barbarie. Les Biden, Macron et autres se posent en défenseurs de la liberté, se portant au secours d'opprimés. Quelle sinistre farce! De la part de ceux qui continuent de piller les ressources de nombreux pays, de nombreux peuples, et à bafouer leurs droits comme en Palestine. De la part de ceux qui sont allés faire la guerre à l'Irak et à la Libye, en passant par l'Afghanistan, et qui arment des dictatures moyenâgeuses de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, dans leur guerre au Yémen, provoquant une crise sanitaire, une crise humanitaire, pardon, sans précédent. Et ce n'est pas pour rien que les voix les plus opposées à la guerre viennent surtout des masses opprimées des pays pauvres, des travailleurs d'Afrique ou du Moyen-Orient, ou ici, dans l'immigration. Eux ne sont pas dupes, car ils ont appris dans leur chair que les puissances impérialistes n'interviennent jamais pour faire le bonheur des plus pauvres. Alors, face au courant dominant qui est pro-guerre, il nous faudra continuer à affirmer que cette guerre n'est pas la nôtre. Il faudra continuer à tenir sur nos convictions anti-impérialistes révolutionnaires. J'ajoute le mot révolutionnaire, parce que pour nous, la seule façon de se débarrasser de l'impérialisme, c'est de détruire le capitalisme, c'est-à-dire d'arracher le pouvoir de la classe capitaliste à l'échelle du monde. La société se rapproche chaque jour un peu plus du précipice. Chacun s'en rend plus ou moins compte, en a le sentiment. Et c'est la classe capitaliste qui est responsable de ce chaos. Souvenez-vous de cet été, particulièrement chaud et sec, que nous avons connu et qui nous montre que nous commençons à ressentir les effets du réchauffement climatique. En France, on nous annonce des pénuries d'électricité du fait que la moitié des centrales nucléaires sont à l'arrêt, faute d'avoir été entretenues. Et l'on rallume les centrales thermiques à gaz et à charbon, dont les effets sur le réchauffement est désastreux. Face à la flambée des cours du gaz, certaines usines sont mises à l'arrêt. D'autres vont peut-être être délocalisées dans des pays où l'énergie est moins chère. Les marchandises continuent d'être produites et de circuler en fonction du profit à court terme, quitte à accroître encore les rejets polluants du fait de leur transport. Parallèlement, on veut nous rendre responsables de cette situation en nous incitant à faire preuve de sobriété, en baissant d'un degré la température dans les logements, de mettre des cols roulés, de fermer le robinet ou de mettre des mousseurs pour économiser l'eau. À chaque fois, les mesures prises par la classe dirigeante sont dérisoires et injustes. Elles visent toutes à nous faire payer les conséquences d'un système économique irrationnel, tout en dédouanant la classe capitaliste de ses responsabilités. Face à cela, ce sont des mesures à l'échelle de la planète qui seraient nécessaires, mais la classe capitaliste en est incapable. Face à ce chaos, nous restons convaincus qu'il existe une seule force capable de changer la société, c'est la classe ouvrière. Seule la classe ouvrière, en mettant sous son contrôle la production, peut imposer une planification qui fera passer en priorité l'intérêt général contre celui d'une minorité parasite et mettra fin ainsi à l'anarchie capitaliste. Nous ne savons pas quand la classe ouvrière se mettra de nouveau en mouvement, mais nous avons confiance dans l'avenir. Et je voudrais finir cette intervention en évoquant justement le mouvement qui se déroule en ce moment en Iran, après l'assassinat par la police des mœurs de Mahsa Amini pour avoir mal porté son voile. Après 40 ans de dictature religieuse, la révolte secoue toute la jeunesse du pays, avec les femmes en première ligne qui risquent chaque jour leur vie. Elles reçoivent le soutien des hommes dans ce combat. Profitant de la colère qui se généralise, des grèves, jusque-là rendues presque impossibles par la répression, ont éclaté dans les raffineries du pays. C'est dans ces moments-là, quand des centaines de milliers de jeunes et de moins jeunes n'imaginent plus reculer, que tout devient possible. C'est dans ces moments-là que les peuples peuvent brûler ce qu'ils respectaient et se libérer de leurs chaînes. C'est dans ces moments-là que les révolutions deviennent possibles. Et c'est dans ces moments-là que l'existence d'un parti communiste révolutionnaire peut faire basculer le cours de l'histoire en dirigeant la révolution vers la prise du pouvoir par les travailleurs. Alors oui, nous gardons confiance dans la classe ouvrière, dans le camp des exploités et des opprimés, dans le camp des travailleurs. Oui, nous restons convaincus que l'avenir est au communisme. Alors mes camarades, mes amis, bonne fête à tous.